Info. Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h. Très bon début de journée à tous.
Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain.
Face à l'émoi d'une profession, le chef de l'État appelle à l'unité, au soutien du corps enseignant. Hier soir, un professeur d'histoire géo a été tué dans les Yvelines, décapité devant son collège pour avoir évoqué les caricatures de Mahomet. Les syndicats enseignants seront reçus par leur ministre dans la matinée.
Le terroriste, un jeune de 18 ans d'origine tchétchène, a été tué par les forces de l'ordre. Il avait revendiqué son acte. Ce matin, 4 de ses proches sont en garde à vue.
Et puis, autre titre dans l'actualité ce samedi, c'est évidemment ce couvre-feu. 20 millions de Français sont concernés. Ils devront rentrer chez eux à 21h ce soir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il s'est rendu sur place quelques heures seulement après le drame, après cet attentat abject. Emmanuel Macron s'est exprimé de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, entouré des ministres de l'Intérieur et de l'Éducation.
Quelques heures après la mort d'un prof d'histoire géo tué devant son collège, décapité par un jeune homme d'origine tchétchène pour avoir, semble-t-il, montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. C'était il y a 10 jours, dans le cadre d'un cours d'éducation civique au programme de l'éducation nationale. Le chef de l'État a tout de suite voulu soutenir et appuyer le corps enseignant.
Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard. Si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle.
Emmanuel Macron avec Nicolas Feldman aux côtés du chef de l'État. Hier, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a rencontré le personnel du collège. Ce matin, il recevra les syndicats d'enseignants. C'est toute une profession qui aujourd'hui est meurtrie, sous le choc, mais qui entend réagir à l'image de Jean-Rémy Girard, le secrétaire général du SNALC.
On est en train de voir sur quel type d'action, sur montrer des caricatures, sur faire une marche pour l'éducation nationale, pour la liberté d'expression, etc. On est en train d'en discuter, on en discutera sans aucun doute entre organisations syndicales également pour trouver des modalités d'action pour soutenir le fait qu'en France, au XXIe siècle, on peut et on doit expliquer la laïcité, expliquer les valeurs de la République et qu'on ne doit pas craindre pour sa vie quand on fait ça.
Jean-Rémy Girard, le secrétaire général du SNALC avec Victor Dolande.
Ouais, et moi, partagé hein, dans le corps enseignant, on en parlera à 7h40 avec mon invité Benoît Test du syndicat FSU. Hier, le parquet national antiterroriste s'est tout de suite saisi de l'affaire. Compte tenu du mode opératoire, de la revendication sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun doute, il s'agit bien, Marguerite, d'un attentat terroriste.
Le tueur a visiblement agi par vengeance. Guillaume Bies, c'est donc un cours d'éducation civique qui serait à l'origine du drame.
Oui, en fait, c'est une vidéo qui a mis le feu aux poudres, celle d'un père d'élève qui se filme avec son téléphone. Un homme choqué par l'attitude du professeur qui a montré une caricature de Mahomet en classe. Voyou le qualifie ce père d'une collégienne qui appelle à dénoncer le professeur dont il diffuse aussi le nom sur Internet. D'après nos informations, cet homme proche des milieux islamistes a aussi porté plainte le 8 octobre contre l'enseignant qui en a fait autant, lui, quelques jours plus tard, soutenu par la principale du collège. Et alors que la direction de l'établissement pensait avoir fait le nécessaire pour contenir le début de polémique, la fameuse vidéo du père, elle, a continué à circuler. Selon nos informations, elle a justement été relayée sur le compte Twitter attribué au terroriste, celui sur lequel il a revendiqué son crime hier, en donnant même le nom de sa victime. Ce jeune assaillant de 18 ans, né à Moscou, était totalement inconnu des services de police. Fils de réfugié tchétchène, il avait obtenu sa carte de séjour en mars dernier à sa majorité. Dès hier soir, des perquisitions ont été menées, notamment chez lui, et plusieurs de ses proches ont été interpellés, placés en garde à vue, pour être longuement interrogé sur ses relations et sur les raisons qui l'auraient poussé à commettre une telle attaque.
Les précisions de Guillaume Bies, le terroriste lui a donc été abattu par les forces de l'ordre. On le comprend bien, la polémique a éclaté il y a une dizaine de jours après ce cours sur la liberté d'expression. Les réactions, les menaces qui entouraient ce professeur auraient dû être prises en compte selon le chef de file des sénateurs républicains Bruno Retailleau.
Il est évident que ce professeur d'histoire-géographie faisait l'objet de menaces, notamment de parents d'élèves, depuis plusieurs jours. Il a fait l'objet sur les réseaux sociaux une sorte de lynchage. Si ce professeur d'histoire avait dénoncé à sa hiérarchie les menaces dont il faisait l'objet et qu'il y a eu derrière une inertie, ça sera très grave. Et nous demanderons évidemment des comptes. Nous sommes en guerre, voilà. Et nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Le progressisme, c'est fait pour les bisounours. Maintenant, j'attends du chef de l'État qui devienne un chef de guerre.
La parole de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Depuis hier, toute la classe politique dénonce ce crime.
L'ancien président François Hollande appelle à l'unité. Certaines voix s'élèvent et réclament une grande marche pacifique. C'est le cas du député La France Insoumise, Éric Coquerel. Il y a ces appels et puis bien sûr l'émotion, comme celle que vous pouvez entendre dans la voix de Michel de Vaucouleurs, la députée des Yvelines, députée du secteur de Conflans-Sainte-Honorine.
C'est une très grande tristesse qu'on en soit là, qu'on soit en train de tuer des professeurs qui font leur boulot. Une profonde tristesse et une violente colère, parce que on devrait pouvoir éviter ça. On devrait pouvoir l'éviter. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai bien senti la détermination du président, et comme il l'a dit lui-même, d'aller sur des actes. Donc voilà, donc les actes, c'est du personnel policier, des moyens policiers. Donc ça relève de l'exécutif. Mais en tout cas, s'il a besoin du législateur, nous, on sera là.
L'émotion de Michel de Vaucouleurs, député des Yvelines, avec Adrien Beck. Hier soir, l'hebdomadaire Charlie Hebdo a également réagi. Seule la détermination du pouvoir politique et la solidarité de tous mettront en échec cette idéologie fasciste. Voilà ce qu'écrit Charlie Hebdo sur son compte Twitter, en plus évidemment du soutien inconditionnel à la famille de la victime et à tous les enseignants.
Ce nouvel attentat terroriste, ce mode opératoire qu'on ne peut pas raisonnablement qualifier, les revendications du tueur, on analysera tout cela à 8h15 avec mon invité Alain Bauer, le professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers sur Europe 1. Il est 7h07. Dans un instant, l'autre actualité de ce samedi, c'est bien sûr le couvre-feu sanitaire. Il entre en vigueur aujourd'hui pour 20 millions de Français. A tout de suite.
Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre. On est parti pour au moins 4 semaines. Ce sont les 20 millions de Français concernés par le couvre-feu et qui devront donc désormais être rentrés chez eux à 21h.
En Ile-de-France et dans 8 métropoles, dont Lille, Lyon, Grenoble ou Marseille, il va falloir s'y faire. Les sorties seront interdites entre 21h et 6h du matin, sauf dérogation. On pourra continuer à aller se faire soigner ou à aller travailler. Mais pour le reste, les sorties entre amis ou les séances de ciné, il va falloir s'adapter.
À 21h, c'est un coup dur pour le monde de la culture. Ce monde du soir qui doit donc se réinventer pour tenter de survivre. Explication d'Angèle Châtelier.
Pour compenser l'absence de séances du soir, les cinémas MK2, il y en a 26 à Paris, projetteront des films le matin dès 8h, car le couvre-feu, ça impacte 50% du marché français du cinéma. Nous allons surtout le soir voir des films. Alors l'autre solution, c'est d'avancer la dernière séance pour être sûr que les spectateurs soient chez eux à 21h. Et côté musique, pareil, Jeanne Hadid, par exemple, sera sur scène à 18h ce soir. Difficile d'imaginer un concert de rock comme celui-ci à 11h du matin, c'est un horaire plus envisageable pour voir une pièce de théâtre. L'idée donc, c'est de jouer deux fois par jour, le week-end, matin et soir. Richard Berry l'a déjà prévu pour sa pièce Plaidoirie au Théâtre Libre. Alors oui, le secteur s'adapte. Ce que rappelle Bertrand Tamin, président du syndicat national des théâtres privés.
Vous savez, dans le milieu du spectacle, on n'est jamais résigné, on n'est jamais abattu, donc on va continuer à se battre. On espère beaucoup qu'une partie des spectateurs se reporte sur le week-end et puis on espère aussi que les spectateurs acceptent de venir chez nous 1h30 ou 2h plus tôt.
La journée type d'un passionné de culture devient donc séance de cinéma à 8h, pièce de théâtre à 11h, avant de filer dès 18h dans une salle de concert.
Le programme signé Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
Le monde du spectacle doit se réinventer. Wendy Bouchard sera demain soir à partir de 18h en direct du théâtre du Rond-Point pour une émission spéciale justement avec tous les acteurs de ce monde du spectacle. 7h10, Nicolas Sarkozy a-t-il financé sa campagne de 2007 grâce à l'argent de la Libye de Kadhafi ? L'ancien président de la République est en tout cas mis en examen dans cette affaire, poursuivi pour association de malfaiteurs.
Lui qui était déjà poursuivi pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. C'est une étape de plus dans le combat des partis civils et notamment de l'association Sherpa, dont Vincent Bringart est l'avocat.
C'est une décision qui est inédite, sans précédent. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État se retrouve mis en examen pour une infraction aussi grave que celle d'association de malfaiteurs. Ça signifie que le juge estime qu'il pourrait y avoir l'existence d'un groupement ou d'une entente établie pour préparer des crimes ou des délits. Cette entente établie est directement liée à l'existence d'un possible pacte corruptif qui concernerait non seulement Nicolas Sarkozy, mais également les autres personnes mises en examen. Concernant donc les conditions dans lesquelles le financement de la campagne en 2017 a eu lieu.
Maître Vincent Bringart, l'avocat de l'association Sherpa avec Gladys Laffitte. Il y a ces soupçons pour la campagne de 2007. Il y a l'affaire Big Malion. Tout cela entache évidemment la réputation de Nicolas Sarkozy qui tente depuis hier de se défendre, Aurélie Herbemont.
Mon innocence est à nouveau bafouée, l'injustice ne gagnera pas. Nicolas Sarkozy n'a pas mis longtemps à faire part de sa colère après cette nouvelle mise en examen. L'ancien chef de l'État qui martèle son innocence face au crédit invraisemblable accordé par la justice aux déclarations d'assassins, d'escrocs notoires et de faux témoins. Sa famille politique est aussitôt montée au créneau pour dénoncer un acharnement judiciaire. Acharnement choquant pour Christian Jacob quand Nadine Morano parle de tentative permanente d'assassinat politique. Alors que depuis quelques semaines, certains à droite entretiennent l'idée que le candidat LR pour la présidentielle 2022 pourrait s'appeler Nicolas Sarkozy, à coup de confidence du style « si Emmanuel Macron tombe à 10%, il ne laissera personne d'autre y aller à sa place ». Malgré cette nouvelle épée de Damoclès, un de ses amis l'assure, tout cela va s'évaporer après le mauvais temps les éclaircies. Les juges ne le lâcheront pas, peste à l'inverse un député qui ne croit pas à un retour. L'ancien président, lui, ne cesse de jurer que la politique, c'est fini.
Information d'Aurélie Herbemont.
Allez, on passe au sport et l'actualité est riche aujourd'hui avec d'abord du foot.
Et la victoire du PSG hier, 4-0 face à Nîmes. Les Parisiens prennent la tête du championnat. En rugby, Toulon n'a rien pu faire face à Bristol en finale de Challenge Cup. Ce soir, le Racing 92 tentera de faire briller les couleurs tricolores dans la grande Coupe d'Europe, la Champions Cup. Il faudra pour cela battre les Anglais d'Exeter. Jean-François Pérez.
Three times lucky, la troisième est la bonne. Si l'on s'en tient à l'adage anglais, cette finale ne peut échapper aux Racing Men déjà défaits en 2016 et 2018. Le trois quarts centre historique du club, Henri Chavancy.
C'est quelque chose qu'on recherche depuis quelques années maintenant. C'est l'objectif évidemment de tous.
La préparation de cette finale n'a pas été idéale. 11 cas de Covid ces dernières semaines, centre d'entraînement fermé. C'est en Corse que le Racing a peaufiné ses derniers réglages. Les joueurs trépignent, à l'image du demi de mêlée, Maxime Machenot.
La pression est montée d'un cran et on espère arriver avec beaucoup d'expérience pour soulever ce trophée qu'on convoite tant.
Arrivé hier en Angleterre avec des tests 100% négatifs, les Racing Men vont vivre ce grand moment dans un stade de Bristol, à huis clos. L'entraîneur, Laurent Travers, un brin nostalgique.
L'odeur de la merguez ne sera pas présente. Voilà, il n'y aura pas les bandas, il n'y aura pas mais à nous de faire ce qu'il faut pour mettre l'engouement et l'enthousiasme au niveau de l'équipe.
Si le Racing déjoue les pronostics face aux favoris anglais d'Exeter, il deviendra le quatrième club français vainqueur de la Coupe d'Europe après Toulouse, Brive et Toulon.
Jean-François Pérez, sans ce premier jour de vacances, on fait la route avec vous.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
Damien Mestre, c'est plutôt très calme ce matin.
Oui, ça circule plutôt bien, même sur les grands axes. Localement, quelques difficultés quand même, comme sur l'A61 en direction de Narbonne, où cela coince quand même comme il faut juste après Carcassonne. Mais globalement, la matinée promet d'être relativement tranquille. On attend quelques ralentissements à partir de 10h-11h, notamment à bord des agglomérations comme Bordeaux ou Aix-en-Provence, et puis à la sortie de Paris en direction du sud.
Merci Damien Mestre.
Et merci à vous Marguerite Lefebvre. Vous revenez pour le journal de 8h.